Chapitre 12. Libby est invitée à un barbecue ce samedi. Elle y avait pensé toute la semaine. Pour l'occasion, son ami April avait convié Danny, un beau gosse du boulot, tu vas l'adorer. Mais lorsque le jour de la fête se lève, qu'une nouvelle chaude journée surplombée d'un ciel bleu infini s'annonce, que les volets sont déjà brûlants quand Libby les ouvre, elle ne songe plus au beau Danny, à la fameuse salade épicée d'April, à la coupe orangée d'un spritz qu'elle pourrait tenir dans sa main, ni à ses pieds plongés dans l'eau d'une piscine gonflable. Elle est obnubilée par l'étrange affaire de Serenity Lamb et de la patte de lapin. Elle envoie un message à April. « Je suis vraiment, vraiment désolé, je ne peux pas venir. Passe un bon moment. Dis-moi si vous y êtes encore en fin d'après-midi que je fasse un saut. » Elle prend sa douche, enfile une combinaison à motif tropical et des sandales en cuir doré, se met de la crème solaire sur les bras et les épaules, pose ses lunettes de soleil sur sa tête, vérifie que ses clés sont bien dans son sac et sort attraper le train pour Londres. Libby insère la clé dans le cadenas qui retient les planches de bois. Il s'ouvre, libérant l'accès à la serrure de la porte. Elle s'attend encore à ce qu'une main se pose sur son poignet, qu'on lui demande ce qu'elle fait là. Elle entre sans encombre dans la maison. Dans sa maison. Seule. Elle referme la porte derrière elle, et le bruit de la rue se dissipe aussitôt, tout comme la chaleur dans sa nuque. Pendant un moment, elle reste complètement immobile. Elle imagine les policiers qui sont venus ici, qui se sont tenus là où elle se tient désormais. Ils portaient le vieil uniforme de la métropolitaine. Il y avait des photos d'eux dans l'article du Guardian. Les agents Ali Shah et John Robin, intervenus suite à l'appel anonyme d'un voisin inquiet qu'on n'avait jamais pu identifier. Elle marche dans le souvenir des pas des deux officiers jusqu'à la cuisine. L'odeur de putréfaction devait être de plus en plus poignante. L'agent Shah avait parlé du bourdonnement des mouches. Il avait d'abord cru qu'il s'agissait du bruit d'une tondeuse à cheveux ou d'une brosse à dents électrique. Les corps étaient au début de leur décomposition. On pouvait encore reconnaître la femme brune d'une quarantaine d'années et l'homme aux cheveux roux qui se tenait la main. À côté d'eux gisait le cadavre d'un homme de grande taille, aux cheveux sombres. Ils étaient tous vêtus de noir. La femme portait une tunique et un collant, les hommes une sorte de robe. Ils semblaient avoir cousu leurs habits eux-mêmes. Plus tard, on trouverait une machine à coudre dans le cellier et des chutes de tissu noir dans une poubelle. Mis à part le bourdonnement des mouches, un silence de mort planait sur la maison. Les policiers n'auraient jamais pensé à chercher un bébé si la lettre laissée sur la table à manger n'en faisait pas mention. D'abord, ils n'avaient pas remarqué le dressing attenant à la chambre, puis ils avaient entendu un petit bruit, comme un gazouillis. Un gazouillis. Libby monte doucement l'escalier et avance dans la chambre. Elle jette un coup d'œil dans le dressing. Elle était là. « Jolie comme un cœur », pour citer l'agent Robin. « Jolie comme un cœur ». Elle sent ses poils se hérisser alors qu'elle s'approche du berceau, mais elle se force à regarder ce petit lit jusqu'à ne plus rien ressentir. Au bout d'un moment, elle se sent calmée et pose une main sur le bois. Elle pense aux deux jeunes officiers penchés au-dessus du berceau. Elle se voit dans sa grenouillère blanche, la tête déjà recouverte de boucles à la Shirley Temple, ses pieds battant l'air d'excitation à la vue de deux visages amicaux au-dessus d'elle. « Elle essayait de se lever », avait raconté Robin. « Elle s'accrochait aux barreaux du berceau et voulait absolument qu'on l'en sorte. On ne savait pas quoi faire. D'une certaine façon, elle était une des pièces à conviction. Est-ce qu'on pouvait la toucher? Est-ce qu'il fallait appeler des renforts? On était complètement désemparés. » Apparemment, ils avaient décidé de ne pas la prendre dans leurs bras. L'agent Shah lui avait fredonné des chansons en attendant de recevoir des ordres. Libby aurait aimé pouvoir s'en souvenir. Qu'avait bien pu lui chanter ce jeune policier? Est-ce que ça lui était venu naturellement? Était-il terriblement gêné? Selon l'article, il avait ensuite eu 5 enfants, mais quand il s'était retrouvé face à Serenity Lamb, il ne connaissait rien au bébé. Une équipe de la brigade criminelle était ensuite arrivée sur les lieux, avec une policière de la brigade de protection des mineurs. Elle s'appelait Felicity Measures. Elle avait 41 ans. À présent, elle en a 66 et vient de prendre sa retraite. Elle vit au Portugal en compagnie de son troisième mari.
C'était un bébé adorable, avec de belles boucles blondes, avait-elle confié au journaliste. De toute évidence, on s'était bien occupé d'elle. Elle avait été nourrie. Elle souriait beaucoup et adorait les câlins. Incroyable, quand on pense aux circonstances dans lesquelles on l'a retrouvée, et qui étaient franchement sinistres. Je dirais même glauques.
Libby s'appuie sur le berceau, qui grince longuement, comme pour souligner son vieil âge. Pour qui avait-il été acheté? Pour elle ou pour des générations de bébés nés avant elle? Elle sait désormais qu'il y a d'autres personnes impliquées dans cette affaire. Martina et Henry Lamb, l'homme inconnu et les enfants disparus, certes, mais les voisins avaient parlé de nombreux enfants, pas seulement d'eux, et de gens qui allaient et venaient. Dans la maison, on avait trouvé des tas d'empreintes génétiques non identifiées, des taches de sang, des fibres, des cheveux et des poils, des inscriptions sur les murs, derrière les portes, et un jardin d'herbes médicinales dont certaines avaient été utilisées pour le suicide collectif.
Nous nous libérons de nos corps brisés, de ce monde répugnant, de la douleur et de la déception. Notre bébé s'appelle Serenity Lamb, elle a 10 mois. Faites qu'elle soit confiée à une bonne famille, s'il vous plaît. Que la paix soit avec vous, toujours. H.L. M.L. D.T.
Voici ce que disait la lettre trouvée près de leur cadavre. Libby quitte la pièce et se déplace lentement dans la maison, cherchant d'autres reliques de l'époque du drame. Selon l'article, là où les autres personnes présentes ce soir-là s'étaient enfuies en laissant les tiroirs des commodes ouverts, de la nourriture dans le réfrigérateur, des livres jetés sur le sol, des morceaux de ruban adhésif et des lambeaux de papier collés au mur. Elle repère un morceau d'adhésif jauni et desséché sur celui de la cuisine. Elle en décroche un petit bout de papier et le place dans la paume de sa main. Qu'avait bien pu être écrit ou dessiné ici qu'une personne fuyant un désastre ne voulait pas que d'autres yeux voient? Le réfrigérateur est toujours là, une immense armoire américaine rouillée couleur crème, ce qui ne devait pas être très courant au Royaume-Uni dans les années 1980, se dit-elle. Elle l'ouvre et en observe l'intérieur. Des taches de moisie, deux bacs à glaçons craquelés et cassés, c'est tout. Dans les placards de la cuisine, elle trouve des bocaux en émail et un paquet de farine tellement vieux qu'il a la consistance d'une brique. Il y a aussi un service à thé blanc, une théière en chrome, des pots d'herbes et d'épices, un porte-toast et un grand plateau peint en noir. Elle gratte la surface sombre pour découvrir le métal qu'elle dissimule et se demande pourquoi quelqu'un voudrait cacher un plateau en argent. Soudain, elle s'immobilise. Elle a entendu quelque chose. Du mouvement à l'étage. Elle range le plateau dans le placard et s'avance jusqu'au pied de l'escalier. Ce son, à nouveau, un bruit sourd, un peu étouffé. Son cœur se met à battre plus vite. Elle monte les marches sur la pointe des pieds. Encore un bruit, puis un autre. Et là, sans aucun doute possible, un raclement de gorge. Son cœur s'emballe.
« Y a quelqu'un ? Maître Royle ? » appelle-t-elle.
Un silence lui répond. Un silence alerte, délibéré.
« Ohé ! »
Libby a l'impression qu'une bête aux aguets rôde en haut des escaliers. Elle a l'impression d'entendre le pouls de quelqu'un résonner entre les murs. Elle songe au mystère évoqué par l'article. Les enfants qui ont fui la maison, la personne qui est restée pour s'occuper d'elle, les inscriptions, le morceau de tissu accroché à un radiateur, les traces d'ongles retrouvées sur certaines parois, la lettre étrange laissée par ses parents, les fleurs bleues peintes sur le berceau grinçant, les feuilles arrachées des murs, les taches de sang et les serrures à l'extérieur des chambres du dernier étage. Puis elle pense à la pelouse bien taillée d'April, à sa salade épicée, à l'orange brillant du spritz, à ses pieds moites pataugeant dans une piscine glacée. Elle pense au beau Danny et au bébé potentiel qu'il pourrait avoir quand elle aura 30 ans.
Ou même avant.
Oui, pourquoi pas?
Pourquoi retarder ce moment?
Elle peut vendre cette maison et oublier son histoire lugubre et terrifiante.
son réfrigérateur moisi, son jardin en friche, ses raclements de gorge et ses bruits de pas au grenier. Elle peut s'en débarrasser, devenir riche, épouser Danny et avoir ses enfants. Elle n'a rien à voir avec ce qu'il s'est passé ici. Elle ne veut rien en savoir. Elle cherche les clés dans son sac à main, referme la grande porte en bois et les planches qui la condamnent, puis s'engage avec un vif soulagement sur le trottoir brûlant. Elle sort son téléphone. « Garde-moi une assiette. J'arrive dans une heure. »